Bonjour à tous. Mais que se passe-t-il donc depuis le début de la pandémie de Covid-19? Des journalistes traités de collabos, des médecins confrontés à une patientèle de plus en plus nerveuse, des caissières insultées par des clients qui refusent de porter le masque. Bonjour Philippe Reltien.
Bonjour Jacques.
Un climat de tension semble affecter de nombreuses professions depuis quelques temps. Vous avez donc enquêté pour essayer de comprendre s'il s'agit d'un phénomène passager ou s'il est au contraire révélateur d'une mutation plus profonde de notre société.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
La mairie, l'hôtel de ville, c'est l'hôtel de tous les Poitevins. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent y rentrer, qu'il n'y a pas de problème, mais pas de manière violente comme ça. Ça, c'est pas admissible.
Est-ce que vous portez plainte ?
Il va y avoir un dépôt de plainte, oui.
Voilà, celui que vous venez d'entendre, c'est Jean-Louis Fourcault, c'est un conseiller municipal de Poitiers qui s'exprimait au micro de nos confrères de France 3 après des dégradations commises dans sa mairie par des anti-vaccins. Des violences en marge de manifestations, il se trouve qu'on en a connu beaucoup ces derniers temps. Et c'est donc par ça qu'on va commencer, Philippe Reltien. Il semble bien qu'on assiste depuis peu à un changement de nature de ces manifestations.
Oui, il n'y a pas si longtemps, elles étaient encore encadrées par des services d'ordre qui en assuraient le bon déroulement. Or aujourd'hui, ce sont souvent les réseaux sociaux qui mobilisent et qui permettent d'observer en direct les rassemblements. Mais surtout avant, la cible de la colère, c'était le pouvoir et les forces de l'ordre. Or aujourd'hui, des journalistes sont aussi pris pour cible. Et pour bien comprendre ce qui se passe, je vous emmène à Belfort. En juillet dernier, Flora Midi, une journaliste de la station locale de France Bleu Belfort-Montbéliard, est prise à partie par des manifestants alors qu'elle se trouve retranchée derrière une porte vitrée dans les locaux de sa radio.
Je rentre faire du montage et c'est à ce moment-là que les gendarmes nous appellent et nous disent « Voilà, le cortège est en train de se diriger vers chez vous. Ils se sont déjà arrêtés devant les locaux de vos confrères l'Est républicain. Ne restez pas près des vitres, protégez-vous puisqu'ils arrivent. » Et alors, c'est impressionnant. Je suis toute seule là, dans les locaux et ils sont à peu près une centaine à débarquer devant. Ce qui me marque tout de suite, c'est qu'ils hurlent à l'unisson « Collabo, collabo !» Ça, je sais pas combien de fois, 50, 60 fois peut-être. Ça tape à la vitre, ça crie des noms d'oiseaux. Bande de connards, bande de collabos, bande de vendus. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que certains me font, vous savez, le signe avec le pouce sur la gorge, là, comme s'ils allaient me trancher la gorge. Ils voudraient que je sorte pour discuter avec eux, sauf que quelques minutes avant, à l'Est républicain, le rédacteur en chef a fait le choix de sortir. Et ça s'est pas très bien passé. Mmh. Il s'est fait violenter.
On entend qu'elle a passé un sale quart d'heure, mais la nouveauté, donc Philippe, c'est que désormais, nous, les journalistes, nous sommes devenus des cibles.
Oui, jusqu'à il y a peu, la presse était perçue comme un observateur, mais aux yeux de certains manifestants, anti-vax notamment, elle est maintenant vue comme la voix de son maître, l'auxiliaire d'un pouvoir que l'on juge menteur et autoritaire. On l'a encore vu d'ailleurs samedi dernier, toujours à Belfort, lorsque les locaux du journal L'Est républicain ont été la cible d'une centaine de manifestants. Et Flora Midi l'a aussi clairement perçu à travers les slogans qu'elle a entendus.
Vendu de l'État, ça c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'on entend à chaque fois. Qu'on travaille pour l'État, pour le gouvernement, directement pour Emmanuel Macron. Qu'on n'est pas libre, qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut. Et vraiment ce que j'ai entendu dans les cortèges, c'est que le président appelle et nous dit « voilà ce que vous pouvez dire, voilà ce que vous ne pouvez pas dire ». C'est vraiment ce qui est dans la tête des gens.
Ouais, cette vision de journaliste qui serait à la botte du pouvoir, elle semble avoir fait école.
Oui, on retrouve le même vocabulaire dans d'autres manifestations, dans d'autres régions. Écoutez ce que raconte de son côté Hélène Langlois. Elle est technicienne à Radio France et elle se souvient du comportement de certains manifestants lors de l'acte 9 des Gilets jaunes qu'elle a couvert à Bourges.
Pour moi, à Bourges, ils attendaient vraiment les médias parce qu'ils avaient mis des banderoles exprès pour nous dire « menteur, collabo, mouton de Macron, regardez, vous n'êtes pas les bienvenus ».
Oui, cette tension, elle s'est tellement aggravée, Philippe, que certains journalistes de Radio France, et c'est nouveau, doivent maintenant être protégés par des gardes du corps.
Oui, pour assurer leur sécurité. On leur propose une protection rapprochée. Ça a commencé avec les gilets jaunes et ça s'est poursuivi avec les anti-vax. À Radio France, c'est Loïc Poussel qui se charge d'organiser la sécurité et lui aussi constate que le climat s'est dégradé.
Effectivement, il y a une forte pression psychologique, physique quelquefois. Moi, je peux vous parler d'une journaliste France Bleu qui était sur une manifestation qui était un appel national du mouvement des Gilets jaunes. qui, alors que la manifestation a commencé à peine, elle a été reconnue comme étant journaliste et elle a été caillassée. Et le garde du corps qu'on avait mis en protection lui a évité en fait de prendre un pavé dans le visage. Et il a exfiltré jusque derrière les forces de police qui étaient à peu près à une trentaine de mètres, tout en étant caillassé.
Ouais, donc couvrir une manifestation, c'est clairement devenu dangereux.
En effet, et on a d'ailleurs une longue liste d'incidents. À Marseille et à Bordeaux, des caméramans ont été agressés. À Ajaccio, un photographe de Corse Matin a été tabassé devant la préfecture. Et il y a encore eu des violences l'été dernier à Besançon, Pau, Fort-de-France, Annecy, Troyes, Cayenne, Limoges, Chambéry. Et dans plusieurs cas, selon Loïc Poussel, certains manifestants viennent pour en découdre avec la presse.
Là, ce qui a changé, c'est que la cible n'est plus les effectifs de maintien de l'ordre. La cible devient aussi d'autres personnes, notamment les journalistes qui ne couvriraient pas comme l'entendrait tel ou tel manifestant. Ce qui a changé, c'est que maintenant, en fait, la violence se démocratise. Il y a des violences sur les réseaux sociaux. Il y a des journalistes qui sont pris à partie sur des réseaux sociaux. Il suffit qu'un reportage ou une ligne éditoriale ne soit pas acceptée par certains pour que ce média soit chassé dans les manifestations.
Et cette chasse aux médias ou aux journalistes, Philippe, un certain Yannick Picard en a fait les frais.
Oui, alors lui, c'est un journaliste du journal Sud-Ouest qui suit les affaires municipales en Charente-Maritime. Il a écrit un article à propos du renvoi du trésorier d'une bibliothèque municipale près de La Rochelle à qui on reprochait d'avoir mal tenu ses comptes. Le titre de l'article disait précisément « Les amis du livre évincent leur trésorier ». Eh bien voilà ce qui s'est produit au printemps dernier à l'entrée d'un conseil municipal.
Je me suis retrouvé avec un homme qui était en fait derrière moi, qui s'est mis face à moi, qui a sorti de la poche intérieure gauche de son blouson une petite fiole dont il m'a aspergé le visage. J'ai tout de suite senti une odeur de white spirit pour moi et j'ai bien précisé après dans le dépôt de plainte le lendemain que pour moi, le flacon ne contenait pas du white spirit, mais peut-être en avait-il contenu avant, ou c'était de l'eau avec quelques gouttes. Et aussitôt, je vois cette personne mettre sa main droite dans sa poche, et là, j'ai dit, il va sortir un briquet, il va m'embraser, quoi. J'ai connu un sentiment qu'il n'avait jamais connu avant, qui s'appelle l'instinct de survie. Et là, je suis parti en courant. Je suis parti très très vite, et lui me courait après, et me lançait, donc... Il a mis dans sa déposition de la farine, enfin de la poudre blanche. Et je me suis arrêté au bout de quelques mètres parce qu'en fait je suis parti tellement vite que j'ai une grosse déchirure musculaire au niveau du mollet droit qui m'a handicapé pendant plusieurs mois.
Et donc il a la frayeur de sa vie. Et ensuite, comment ça s'est fini ?
Eh bien, il est resté en arrêt maladie pendant plusieurs mois et son agresseur l'a poursuivi en diffamation. Mais l'affaire n'a pas encore été jugée.
On verra ce qu'il en sera. En tout cas, ce que ça montre et ce qu'on constate, c'est que ce type d'incident, il y en a de plus en plus.
Eh bien oui. Écoutez encore notre technicienne Hélène Langlois. On est au mois d'août, cette fois, à Paris. Le garde du corps qui l'accompagne décide qu'il faut décamper parce que l'ambiance se tend. Et voilà ce qui se passe.
On avait deux agents de sécurité, donc moi j'étais tranquille pour faire mon travail. Et à un moment, il se passe... ça s'échauffe. Et obligé de nous exfiltrer, donc l'agent de sécurité... prend avec sa main, me met la tête vers le bas pour que je regarde mes pieds. Et en même temps, il me dit « tu me suis, hop, hop, à droite, à gauche. » Et hop, il nous exfiltre comme ça. J'ai sauvé mon matériel.
C'est des kilos.
Je pars des fois avec 12 kilos sur le dos. Donc, voilà.
Ouais, voilà. Sauf que le résultat de tout ça, eh bien, c'est que de nombreux confrères travaillent désormais avec une grosse appréhension.
Oui, et ça fait même partie des raisons pour lesquelles on quitte la profession de plus en plus tôt. Deux sociologues des médias, Jean-Marie Charon et sa collaboratrice de l'Université du Havre, Adenora Pijola, viennent de réaliser une enquête sur le sujet. Ils ont interviewé d'ex-journalistes et ils ont été très surpris par ce qu'ils ont entendu.
La très grande majorité des journalistes qui ont traité ces manifestations-là, nous, ce qui nous a vraiment frappé, alors vous me direz que c'est peut-être banal pour des journalistes qui ont travaillé sur des terrains de guerre à l'étranger, mais pour eux qui travaillent habituellement sur des terrains différents, ils nous ont dit qu'ils avaient découvert la peur dans leur travail, que chaque samedi, ils partaient travailler la boule au ventre. Et vous avez peut-être remarqué que dans ce qu'on cite, plusieurs signalent d'ailleurs des menaces et des intimidations, mais des menaces pour leur vie, pour leur santé.
Des menaces pour leur vie.
Oui, et ce que dit Jean-Marie Charon, je l'ai entendu aussi de nombreuses fois au cours de mon enquête. Mais ce type de stress a d'autres conséquences que le changement de métier. Il conduit aussi certains journalistes à travailler différemment et même à s'auto-censurer. Écoutez encore Yannick Picard, le journaliste de La Rochelle qui croyait qu'on allait le transformer en torche.
Mon agression, c'est pas le bout du monde. Je vois des choses beaucoup plus graves se passer au tribunal. Mais dernièrement, depuis quelques mois, allez, on va dire depuis 3 mois, sur certains dossiers, je me pose des questions. Je me dis, tiens, est-ce que tu dois mettre ce mot? Est-ce que tu devrais pas mettre celui-là à la place? Et il m'est même arrivé aussi de parfois poser la question, de me dire, mais non, cette affaire, il y a vraiment peut-être un risque, tu ne vas pas l'écrire. Bon, je l'écris quand même. Je continue le job parce que je fais ça par passion. Mais je fais attention.
Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu dans quel climat d'hostilité travaillent parfois désormais certains journalistes, on va voir Philippe Reltien que ce climat, eh bien, il n'affecte pas que les médias.
Effectivement, il semble qu'à de nombreux guichets de services publics ou dans certains grands magasins, on soit aussi victime de cette agressivité ambiante. Écoutez à ce sujet ce que m'a encore confié le journaliste de La Rochelle, Yannick Picard.
Mathias Burès est le responsable du magasin Hyper-U de Beaulieu, qui est un très gros magasin. Nous sommes assez proches, on se téléphone régulièrement, et un matin, Mathias m'appelle à 8h. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il me veut? Bon, et on entame une discussion complètement informelle pour arriver à un moment où il me lâche le morceau, il me dit, mais écoute Yannick, les clients sont agressifs, mon personnel, mes caissières vont mal en ce moment, beaucoup sont au bord de la dépression.
Au bord de la dépression, et pourquoi?
Eh bien, pour le comprendre, j'ai demandé à la responsable du service client d'une grande surface casino de Marseille, Carola Manou, ce qu'elle en pensait. Et elle m'a expliqué que c'est surtout aux caisses automatiques qu'il arrive que le ton monte.
À la caisse automatique, l'hôte ou l'hôtesse de caisse est directement en contact avec le client. Rien ne les sépare. On est vraiment côte à côte avec le client. Et c'est là que parfois c'est compliqué parce que certains ont le masque sous le nez ou sur le menton. Et là, comme on doit s'approcher de très près, on est obligé de leur dire, monsieur, madame, excusez-moi, mettez votre masque s'il vous plaît parce que je vais devoir intervenir sur la caisse. Et voilà. Parfois, le ton monte du coup. Et puis, ça peut être des insultes. On l'a bien vu pendant le Covid d'ailleurs. C'est nous qui avons nourri la France, hein, si on peut le dire ainsi. Et là, tout le monde était bien content. Certains nous remerciaient, d'ailleurs, mais malheureusement, c'est vite oublié. C'est violent, vous voyez. Donc, il n'y a pas que des violences physiques, mais il y a beaucoup de violences verbales et des choses qui peuvent blesser.
Et des choses qui peuvent blesser d'autres professions, on entend.
Effectivement, des incivilités ou des agressions verbales, les médecins disent aussi en subir de plus en plus. Et ça aussi, c'est nouveau. Écoutez le docteur Charles Laroui, médecin généraliste depuis 29 ans dans le 15e arrondissement de Paris. Il affirme que certains de ses collègues en ont plus qu'assez.
Il y a beaucoup de médecins, notamment dans le quartier, là, qui sont partis en retraite plus tôt que prévu avec la pandémie. Et bon, il y en a qui sont en burn-out, qui ont du mal à supporter la pression des patients. Sur mon secrétariat, par exemple, il y a des messages pour que je rappelle des patients tous les jours. Des gens qui disent qu'il faut les rappeler de façon urgente. Donc, si j'ai pas rappelé dans l'heure qui suit, ils remettent un message à rappeler monsieur machin, urgent. Donc, je finis par rappeler le patient entre deux consultations, ou même quand un patient vient de s'installer dans le bureau, pour être sûr que ce soit pas urgent. Et c'était parce que la veille, il n'était pas allé travailler, il avait besoin d'un papier pour son employeur. C'est la notion d'urgence des patients, c'est pas la mienne.
Ouais, on comprend bien que ça puisse irriter Philippe, mais ça n'est pas vraiment grave, ça, non?
Non, mais ce qu'il observe surtout, et ce qui lui pose problème, c'est que le patient se comporte de plus en plus comme un client. Et ça change le regard qu'on a sur son médecin. Il n'est plus une référence, mais celui dont on attend un rendez-vous tout de suite et qui doit répondre aux demandes, même infondées. Et à cela s'ajoute l'effet Doctolib.
Et c'est quoi l'effet Doctolib?
Eh bien, la prise de rendez-vous se fait désormais en 3 clics à distance et ça désorganiserait la vie et l'emploi du temps des médecins.
Quelquefois, on voit un patient, il a pris rendez-vous tel jour à telle heure, il a annulé, il a repris, il a réannulé, il a repris. Donc, quelquefois, vous avez la moitié de l'écran qui est pris pour un seul rendez-vous qui a été pris, annulé, repris, annulé, repris, annulé. Les gens appellent 36 fois. Au bout du compte, ils prennent la place d'autres personnes en ayant bloqué plusieurs rendez-vous successivement. Et donc, ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont pris la place de quelqu'un d'autre qui lui aussi attend ce rendez-vous. Donc, c'est de l'égoïsme et de l'incivisme.
Cette exaspération qu'exprime ce médecin, cette forme de saturation, on la retrouve aussi dans d'autres professions médicales.
Oui, selon le Conseil de l'Ordre, les ophtalmologues, les psychiatres, les dermatologues, les gynécologues et les cardiologues déclarent faire l'objet de plus en plus de harcèlement de la part de leurs patients. Mais c'est même plus large que ça, souligne Catherine Cornibert, docteur en pharmacie et chargée de communication pour SPS, une plateforme de soutien psychologique aux professions de santé.
On note également les dentistes qui sont très touchés et harcelés par des agressions physiques. Donc on a plus d'agressions qu'avant, en tout cas dans les cabinets libéraux, mais aussi aux urgences. Les psychiatres, il y a deux fois plus de dépression qu'il y a deux ans. Et je dirais même les psychologues aussi. Il y a 10% des appels sur notre plateforme qui concernent les psychologues, puisque à force d'accompagner la souffrance des autres, soi-même aussi, on devient aussi un peu souffrant. Donc il y a aucune profession qui est épargnée actuellement. Souvent, c'est par rapport à une désorganisation dans une équipe ou un phénomène qui a fait que la personne a pété un plomb, mais toutes les professions sont touchées.
Et quand on dit toutes les professions, Philippe, il faut aussi parler des infirmières.
Oui, et là, c'est une profession médicale qui a été décimée par la pandémie. On a enregistré jusqu'à 1700 démissions d'étudiants infirmiers. Et nombreuses sont aujourd'hui les infirmières qui se confient la nuit à des psychologues.
Attendez, je comprends qu'on puisse savoir combien il y a de démissions, mais comment on sait qu'elles se confient à des psychologues ?
Eh bien, parce que, justement, la plateforme de l'association d'assistance psychologique SPS vient de publier ces chiffres. Et on découvre qu'elle a reçu 10 000 appels de professionnels de santé en 18 mois, dont 18% proviennent d'infirmières. Et voilà ce qu'on peut en conclure, selon le docteur Catherine Cornibert.
Le premier confinement, il y a eu beaucoup d'anxiété. Le deuxième confinement, il y a eu beaucoup d'épuisement. Troisième confinement, ça a été plutôt, et encore maintenant, c'est la lassitude. Et tout ce qui a été fait depuis un an, notamment au niveau de Ségur la santé, la revalorisation au niveau de la rémunération, n'a pas été suffisante. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on voit pas mal de gens, de personnes qui veulent se reconvertir. Ils sont arrivés au bout du bout. Leur propre santé était remise en question.
Et cela explique que des infirmières quittent la profession. Mais du côté des jeunes médecins hospitaliers, on vit aussi difficilement les choses.
Oui, beaucoup d'internes et d'anesthésistes sont aujourd'hui en dépression, soit beaucoup plus qu'avant. Selon une enquête publiée par l'Intersyndicale Nationale des Internes, cela concernerait un quart d'entre eux et ils seraient encore plus nombreux en burn-out. Écoutez ce qu'en dit leur président, Gaëtan Casanova.
En 2017, de la première année de médecine jusqu'à la 10e, 11e année de médecine, on était 62% à développer des symptômes anxieux. En 2021, cette année, avec les mêmes questions, on était 75%. Le burn-out, on est en 67% en 2021. Et aujourd'hui, on a une vraie qualité dans le dépistage du burn-out. Donc c'est des chiffres malheureusement inquiétants et malheureusement fiables.
Oui, on pourrait continuer comme ça en parlant d'autres professions, élargir d'ailleurs, parler également des hommes politiques qui sont aussi concernés par le sujet.
Oui, ce constat, les élus le font aussi. En 2020, on a recensé 1300 agressions ou des menaces qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort. C'est trois fois plus que l'année précédente, selon des chiffres qui viennent d'être publiés. Alors certes, historiquement, la politique a souvent tourné au dialogue de sourds et à la dispute dans les enceintes municipales. Ça n'a rien de vraiment nouveau. Mais selon le journaliste de La Rochelle, Yannick Picard, le niveau d'agressivité, lui, a augmenté.
À la sortie de certains conseils municipaux, ça a failli. Moi, j'ai vu les gens venir aux mains complètement, alors avec des gens qui s'interposaient. C'est un phénomène qui n'est pas récent, mais qui n'est pas si vieux que ça, parce que ça remonte à 4-5 ans à peu près. Il n'y a pas d'échange, en fait. Il n'y a pas ce que moi, je vois au tribunal où la parole de l'un et de l'autre est respectée. On ne se coupe pas la parole, on s'écoute, on n'est peut-être pas d'accord, c'est un débat. Mais là, ça n'existe, dans certains conseils municipaux, ça n'existe absolument plus. C'est la foire d'empoigne.
Oui, qui dit foire d'empoigne, dit encore une fois impossibilité donc de se comprendre, sur fond de perte du sens, des nuances. Alors maintenant, comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui explique la montée de cette forme d'intolérance qui semble affecter les relations entre certaines professions et les citoyens ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir, mais dans quelques instants. Put your rebel song, baby, giddy up. Baby, won't you dance, baby, get away. Dreaming nights, start
tuned me with that whiskey breath. Tour me twice, I'll treat you like a holiday. And don't say you're over me when we both know that you ain't. Don't say you're over me, baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina, super high. Dance me all around the moon. Light me up like the 4th of July. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when we both know that you lie. If you lie down, lie next to me. You lie down, lie next to me. La 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 la. When you lie down, lie next to me. Get your jacket on, be a gentleman. Get into your truck and pick me up at 8. 'Cause we were built for the long haul freight train. Burned by fire without trial like a stowaway. And don't say you're over me when they all know that you ain't. If you lay down, lie next to me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina, super high. Like 6 times till I'm sick and I cry. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when they all know that you're lying. If you lie down, lie next to me.
Un peu de douceur et de sérénité, ça fait aussi du bien. C'était If You Lie Down With Me, extrait du 8e album de la chanteuse américaine Lana Del Rey.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et retour à notre récit, une moindre tolérance, une ambiance de crispation. Après avoir fait ce constat, Philippe Reltien, ben on va maintenant essayer de comprendre comment on en est arrivé là.
Oui, alors avant d'émettre des hypothèses, on peut déjà s'arrêter sur ce qui semble être un facteur aggravant, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Car sur ces réseaux, tout se dit, tout se montre, tout se commente en temps réel. Et ça a des conséquences. Écoutez Serge Barbet. Lui dirige le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, le CLEMI, dont le rôle est notamment d'apprendre à exercer un regard critique sur Internet. Eh bien, lui estime que des applications comme Facebook, Twitter ou Instagram peuvent inciter à la violence.
La difficulté aujourd'hui, c'est qu'au moindre problème qui se pose, tout est diffusé à une vitesse beaucoup plus rapide. Et donc, les groupes WhatsApp, les utilisations sur Snapchat, de groupes également, où on a des groupes d'élèves, mais également des groupes de parents aujourd'hui, font qu'aussi la sauce peut monter extrêmement vite. Et que nous avons une comptabilité qui peut être liée aussi au fait que la communication a d'autant accéléré aujourd'hui les phénomènes.
Cette accélération, elle se fait dans un climat où il est de plus en plus difficile d'apaiser les choses.
Eh bien oui, parce que sur les réseaux sociaux, la polémique et le clivage sont devenus la norme. Autrement dit, on a substitué aux arguments, aux débats et à l'écoute les invectives. C'est du moins l'analyse que fait François Jost, un universitaire, sémiologue, qui a récemment publié un livre intitulé « Médias, sortir de la haine ».
Faut voir quand même les unes de l'Express, du Point avant les élections de 2017. Il est nul. Pourquoi la haine de machin? Lui, c'est un flan. Etc. Donc tout ça, ça augmente l'animosité et la haine qu'on peut avoir. Et vous vous rappelez peut-être entre les deux tours de l'élection présidentielle, comment Ruffin a fait un article incroyable où il disait Monsieur Macron, on vous hait. Et il répétait à peu près 17 fois dans l'article « on vous hait, on vous hait, on vous hait ». Évidemment, je veux dire, la parole politique là est très responsable de la violence qu'on ressent après.
Et cette parole politique, on l'a également vu évoluer dans son rapport à la presse.
Oui, là où il était de bon ton de ne jamais s'en prendre à elle, de la respecter au nom de la liberté d'expression et de la nécessaire pluralité en démocratie, eh bien désormais on ne se gêne plus pour la discréditer. Et la nouveauté, c'est que cette propension à faire de la presse un bouc émissaire, elle a contaminé une grande partie de l'éventail politique, comme l'explique le sociologue Jean-Marie Charon.
L'hostilité, la tension, l'agressivité de politique à l'égard des médias, effectivement, était quelque chose qui était plutôt réservé à l'extrême droite pendant très longtemps. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, toute une série de courants politiques ont embrayé sur cette attitude. Moi, je m'inquiète de voir qu'y compris au plus haut niveau, parfois, c'est-à-dire au niveau du président de la République, on a des petites phrases sur le thème que les journalistes feraient mieux de faire mieux leur travail ou feraient mieux de s'intéresser aux choses importantes, etc. Donc il y a du côté, je dirais, des institutions, des personnalités qui représentent les institutions, des manières d'être qui sont apparues ces dernières années qui n'existaient pas précédemment.
Et des manières qui auraient donc alimenté cette défiance. Maintenant, cette défiance, on l'a évoqué, Philippe, les politiques en sont également les victimes.
Oui, alors même si depuis longtemps, certains politiques passent pour des carriéristes ou des démagogues, depuis quelques années, on assiste à un autre phénomène qui semble avoir été exacerbé par la période Covid. Écoutez ce qu'en dit encore le professeur à la Sorbonne, François Jost.
Il y a l'idée du mensonge généralisé, si vous voulez, qui a été sans doute d'ailleurs augmenté par ce qu'on appelait le storytelling, c'est-à-dire que dans la conscience de chacun, il est devenu absolument naturel de penser que quand on communique, etc., c'est pour truquer. En tant que professeur des universités, dirigeant un labo, il m'est arrivé que des gens enregistrent ce que je disais pour pouvoir me le ressortir éventuellement. Donc ça n'atteint pas que les journalistes, ce manque de confiance dans l'autre.
Oui, ça n'atteint pas que les journalistes, mais les journalistes, eux, le vivent concrètement, dans les manifs notamment. Et on va y revenir quelques instants, Philippe, parce que eux aussi sont filmés.
En effet, voilà ce qui se passe, par exemple, quand Hélène Langlois, la technicienne de Radio France, demande si elle peut enregistrer ce qu'ont à dire les manifestants.
Certains disent non, surtout pas. Ou d'autres, oui, oui, mais par contre, on va vous filmer parce que moi, je suis sûre que vous allez tout changer, vous allez construire la réponse. Donc, je préfère filmer ce que vous êtes en train d'enregistrer aussi. Moi, je vous enregistre aussi, puisque c'est comme ça.
Et c'est aussi arrivé à Benjamin Thuot, un autre technicien, preneur de son de Radio France. Il s'est retrouvé le 24 juillet dernier, encerclé sur les Champs-Élysées et à deux doigts de se faire lyncher. Tout commence lorsqu'un manifestant sort son téléphone portable.
Il a commencé à me filmer j'ai pas réussi à retrouver la vidéo, soit sur Telegram ou Facebook, au Facebook Live, en m'insultant. Enfin, il a commencé à crier, il y a deux journalistes sans garde du corps, venez, venez. C'est là que ça a commencé à être vraiment tendu, parce qu'encore se faire filmer, bon bah déjà je lui disais d'arrêter de filmer et tout, mais il m'écoutait pas. Bon, ça pour l'instant c'était pas trop grave et il était pas hyper menaçant, il était juste agressif. Mais là, quand il a commencé à exhorter ses camarades de venir nous impressionner parce que on n'avait pas de garde du corps, là, on a commencé à se sentir en danger. Et en fait, on est passé pas loin de l'agression physique, quoi. On est vraiment passé pas loin.
Ouais, pas loin. Maintenant, ce qu'il est intéressant de relever, c'est que cette défiance de certains manifestants envers les journalistes, lorsque c'est pas de l'hostilité manifeste, elle sera en fait révélatrice d'une évolution plus profonde de notre société.
Oui, alors, Certes, cette tension, on peut l'attribuer à des causes politiques et sociales. Des services publics saturés, en sous-effectif, des métiers en pleine évolution, des retraites qui augmentent peu ou pas assez, des indemnités chômage en baisse. Tout ça peut entretenir un climat tendu. Et il y a en plus l'anxiété liée à la pandémie. Mais au-delà de ces explications, un facteur psychologique aggraverait les choses. C'est en tout cas ce que pense le sémiologue François Jost.
Cette violence, tout ça, est une conséquence du fait qu'on est de plus en plus tourné vers son propre ego. Donc ça donne des réactions où « moi, je ne crois pas quelque chose » et puis voilà, c'est tout. Alors que le savoir est plus universel, si vous voulez. On pourrait se dire « bon, ben, y a des gens qui savent, je vais les écouter, etc. » Mais aujourd'hui, c'est « moi, je ressens pas les choses comme ça ». Et cette importance du ressenti fait que c'est très très difficile de pénétrer, si je peux dire, l'esprit de quelqu'un autrement que par la sensation.
De pénétrer l'esprit, c'est-à-dire de convaincre l'autre.
Oui, et quand on refuse en plus de se confronter aux faits, il devient impossible de trouver un terrain d'entente. En fait, pour François Jost, c'est tout notre rapport à l'autorité et au savoir qui est en train de changer.
Je crois qu'on ne sait plus exactement ce qu'est la réalité et qu'il y a une coupure extrêmement nette entre deux conceptions de la réalité. C'est-à-dire que pour un journaliste, normalement, la réalité, c'est du visible, mais c'est aussi de l'intelligible. Et puis, vous avez des gens qui considèrent, comme les Gilets jaunes le disaient, ce qui est vrai, c'est ce que je vois. Vous me dites qu'il y a eu des morts du Covid, moi, j'en ai jamais vu.
Donc, on ne croirait plus au réel ?
Oui, ou alors on croit savoir mieux que les autres, parce que on a lu, par exemple, un article sur Google. Les avis laissés par d'obscurs anonymes sur Internet finissent par compter autant que ceux de vrais experts. Et peu à peu, ça conduit à douter des élites, des profs, des chercheurs, des médecins, des journalistes. Écoutez ce que dit à ce sujet Cédric Passard, maître de conférences en sciences politiques à Lille.
Les gens ont aussi développé certaines capacités critiques, certaines compétences, mais au point que ça crée des situations de gens qui sont un peu des demi-savants, qui s'informent par eux-mêmes et qui vont voir sur certains sites.
Ça, c'est bien, ça.
Qui pourraient être très positives en soi, mais qui conduisent parfois, justement, à se croire plus savants que les savants, plus autorisés que d'autres à parler sur certains sujets dont, en fait, on est un peu ignorant.
Et quand on est un peu ignorant, mais qu'on se croit savant, c'est vraiment grave, ça ?
Eh bien, parfois, oui. Oui, parce que dans des cas extrêmes, ça peut aboutir à ce que Donald Trump appelait des vérités alternatives ou des post-vérités. Autrement dit, c'est le dernier qui tweet qui a raison. Et cela présente un autre danger, selon François Jost.
Il y a un renversement des valeurs qu'on voit aussi sur le Covid qui consiste à dire « c'est vous les moutons et nous maintenant, nous sommes ceux qui savent ». C'est extrêmement drôle de voir par exemple que pour les vaccins, on parle de ceux qui sont vaccinés, ça devient des croyants dans la bouche de certaines personnes. Alors que justement, il ne s'agit pas de croyances mais de savoir. Il y a un retournement véritablement carnavalesque qui font que les derniers deviennent les premiers.
Oui, mais cette vision inversée des choses, ça résonne pas un peu avec ce qu'on appelle le complotisme, non ?
Ben, si, en effet, ça peut conduire à ça avec toutes ces dérives possibles. On a vu comment aux États-Unis les fausses informations au sujet de l'élection de Joe Biden ont conduit à l'invasion du Capitole. Personne n'est donc aujourd'hui à l'abri. D'où la nécessité pour Serge Barbet du Clémy d'enseigner dès le collège l'esprit critique et la tolérance, car lui pense qu'il est urgent de redresser la barre.
Notre société aujourd'hui est faite de tensions. Dans ce contexte-là, il y a une urgence effectivement à revenir sur des faits de rationalité, de raison et de ne pas tomber dans tous ces panneaux aujourd'hui d'une bipolarisation de la vie au travers de débats de plus en plus clivants où l'on perd la notion même du débat pour partir sur l'invective où il n'y a plus de réflexion mais nous partons sur le réflexe. Et je pense que la violence aujourd'hui est un fait établi qui existe à l'école comme elle existe dans d'autres sphères de la société, y compris dans toutes les sphères du débat public.
Oui, on entend bien ça, Philippe. Tout le monde sera d'accord avec ça. Mais maintenant, la question, c'est comment faire pour y arriver ?
Eh bien, ça, c'est pas simple. Comment réguler les réseaux sociaux ? Comment redonner de la crédibilité à la parole politique ? Comment restaurer la confiance entre la presse et les citoyens ? Bref, comment apaiser une société de plus en plus fragmentée ? Ce sera d'autant plus difficile qu'il existe chez nous une sorte de schizophrénie, selon le sociologue Cédric Passard.
on est tous des spectateurs des jeux du cirque, et donc on a tous à la fois, on s'en révolte, on s'en indigne parfois de ces modes de faire, et en même temps on est tous, c'est parfois un peu comme le match de football, on aime aussi parfois des propos qui peuvent des joutes oratoires, des propos qui peuvent s'enflammer, et donc c'est là peut-être les limites, hein. On n'est pas toujours des citoyens complètement
et on guette la faute.
On guette la faute, en effet. Et les journalistes eux-mêmes, évidemment, ils jouent de ça.
Voilà, vous comprenez que ça nous concerne tous, y compris nous, journalistes. Mais le chantier sera d'autant plus complexe que ce constat n'est pas seulement français. On le fait désormais dans la plupart des démocraties.
Bien, merci Philippe Reltien. Alors on va préciser quand même qu'on a fait ici qu'est-ce qui c'est un diagnostic et des pistes qu'on soumet à votre réflexion. Tout ce qu'on vient d'évoquer, ça reste évidemment un sujet à débat et personne n'a la prétention de détenir la vérité sur une question aussi complexe. Et puis je précise que si vous voulez réécouter cette enquête, la lire d'ailleurs ou même la podcaster, eh bien vous pouvez le faire sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Mélissa Foust et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique et à la technique, il y avait Anne-Laure Cochet. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.